Philippiens chapitre 4, versets 10 à 19. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 19. On va en faire la lecture. Je lis. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. C'est la vérité. Seigneur, instruis nos cœurs. Aide-moi de parler droitement selon ta parole et que les cœurs soient vraiment réceptifs et que tu vois le besoin de chacun, que ce soit pour la conversion, que ce soit pour le service. Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses toucher le cœur de chacun. On te prie au nom de Jésus. Amen. On va retourner dans Matthieu chapitre 28, 19, c'est la grande commission. Matthieu chapitre 28, verset 19. Est-ce que j'ai un volontaire pour lire Matthieu 28, 19 et 20?
Allez, vous faites de toutes les nations, les disciples, les baptisés, et l'on vous fera le fils de Dieu.
Et le prochain verset? Oui.
Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai construit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Très bien. Alors, la grande commission. Allez, faites de quoi? Où est-ce que Dieu veut qu'on aille? Là, l'ordinateur, je ne comprends pas, il fait des choses bizarres. Il va peut-être oublier. De toutes les nations. Pourquoi? Pour prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que Dieu a à cœur toutes les nations? Pour parler la parole de Dieu. Il a créé chacun à l'image de Dieu. Toute créature est à l'image de Dieu. Et Dieu aime chacun car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde entier. Il veut qu'on fasse connaître Jésus-Christ au monde entier. La grande commission, ça inclut de faire des disciples, donc d'amener les gens à se convertir, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça marche pas. On va oublier ça. Mais ça va jusqu'où? Est-ce que c'est juste l'évangélisation? Est-ce que c'est juste leur faire connaître la bonne nouvelle? Ça inclut de les instruire dans tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Et ça va nous amener à faire quoi? Témoigner et donner. Et là, on va revenir dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Voilà. Philippiens chapitre 4, donc. Là, on a les deux perspectives. On a ceux qui donnent pour les missions, ça c'est les Philippiens. On a les dons pour les missions. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, les deux perspectives. Ceux qui proclament l'Évangile devraient vivre de l'Évangile. D'être à temps plein pour pouvoir passer son temps à faire connaître l'Évangile, à former des disciples, écrire des lettres, etc. Pas devoir prendre une partie de son temps durant la semaine pour gagner son propre pain. Ça, c'est le plan du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il avait été appelé à être missionnaire, à être apôtre. Il avait été envoyé. Et les Philippiens, ils aimaient Paul, pas simplement en tant que créature, participer à la même grâce que moi. Alors, il y avait cet amour l'un pour l'autre à cause de Jésus-Christ. Et l'expression de leur amour, c'était de donner à Paul. Et donc, Paul, il se réjouit de cela. On va voir du côté du receveur que Paul, ce n'était pas en soi pour les dons qu'il était content. C'est plus par rapport à le fruit qui abondait aux Philippiens. Mais, du côté des Philippiens, les donneurs, de donner, c'était l'expression de leur amour pour Paul. Tangible. Dieu veut qu'on aime en action et en vérité, comme il dit dans plus loin, dans le Nouveau Testament, dans Jacques. Il ne veut pas qu'on fasse simplement dire, mais il n'y a pas d'être tangible. Donc, de donner, c'était leur manière de montrer leur amour. La grande commission, ils l'avaient à cœur, et ils l'avaient à cœur au point que même leur portefeuille, on l'ouvre, on donne sacrificiellement, on donne avec amour, pour que l'Évangile puisse aller encore plus loin. Donc, premièrement, charitable. Deuxièmement, prioritaire. Parce qu'il dit quoi? Vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Et donc, dès qu'ils en avaient l'occasion, c'est pas à la toute fin, j'ai plus rien à faire avec, bon, alors il nous reste ça à la fin du mois, on va le donner. Non, c'est dès la première occasion qu'ils ont donné. C'était important pour eux, une priorité. C'était aussi volontaire, parce qu'il leur dit, verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. » Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ça, c'est très, très, très important. La grande commission, c'est de proclamer l'Évangile pour que les gens puissent devenir des disciples, les baptiser et ensuite les instruire dans tout ce que Jésus-Christ a prescrit. c'est de faire que les croyants dans une place s'organisent ensemble en tant qu'église pour faire la même chose, pour qu'eux-mêmes aussi puissent donner, pour qu'eux-mêmes puissent faire connaître l'Évangile. Mais l'importance de l'église locale. Jésus-Christ ne veut pas qu'on se convertisse pour ensuite être seul chez soi. Jésus-Christ veut qu'on se convertisse et se faire baptiser en témoignage d'avoir cru et se joindre à les autres qui ont cru pour former une église locale. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes. Quand Paul est parti dans une ville, il a laissé derrière lui une église. Il les a organisés. Il y avait des dirigeants. Il y avait la parole de Dieu pour les guider. Et c'était important. Eux, ils étaient responsables à Jésus-Christ, le souverain berger. Paul ne les dictait plus quoi faire. C'était l'église indépendante. Et on voit que Paul respecte ça pour les Philippiens et les autres églises. Il dit, vous savez, aucune autre église est rentrée en ligne de compte avec moi. Parce que pourquoi? L'église ne répondait pas à Paul. Les églises locales répondaient à Jésus-Christ. Et ils étaient indépendants, ils devaient l'être, pour choisir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec leur propre argent. Et ils devaient choisir à qui ils le donnaient, etc. Chaque église était responsable. Et ça, c'est dommage, parce qu'avec le temps, il y a parfois, dans les missions, des agences missionnaires, que ça devient ce qui remplace l'église locale. Ils ont un bon but, faire connaître l'Évangile, mais le moyen qu'ils le font, ce n'est pas la bonne manière. Samedi, on va recommencer un cours d'institut, surtout en ligne, sur l'histoire des baptistes. Et là, on va regarder en France, l'histoire des baptistes en France à partir de 1890 et suivant. Mais je vous donne juste un petit peu un aperçu. Un gros problème, c'est qu'il y avait des églises de 150, 200 membres qui étaient assez grands pour soutenir leur pasteur, pour payer pour leur propre bâtiment et leurs besoins. Mais ils se faisaient encore soutenir par une grosse agence missionnaire à l'étranger qui payait encore. Et c'est eux, cette agence-là, qui dictait qui les églises devaient avoir comme pasteur, tout ça. Et c'était un non-sens. Parce que les églises devaient être indépendantes. Mais ça ne devrait pas avoir cette agence missionnaire-là qui dicte à qui ils donnent de l'argent, puis à qui peut être leur pasteur, tout ça. Les églises n'étaient pas indépendantes. Et là, le gros problème, c'est que là, le problème doctrinal, ils ont changé l'Évangile, tout ça. Et une des parties du problème, c'est que les églises qui étaient assez grandes pour pouvoir avoir leurs propres besoins, eux-mêmes devaient aussi non seulement pouvoir aux pasteurs qu'ils savaient, aux besoins de locaux, mais eux-mêmes, ils devaient être responsables de qui ils envoyaient en mission. Et pas dépendre trop sur une autre mission à l'étranger qui dictait quoi faire. On voit l'aspect de l'église locale ici. Paul dit, vous le savez vous-même, donc aucune église n'est rentrée en ligne de compte. Vous avez choisi de le faire. C'est les Philippiens qui ont choisi de le faire. Regardez, la collecte d'argent qu'on fait pour nos besoins d'église. Il y a aussi un désir qu'au-delà de notre église, si j'entends l'Évangile, on va non seulement pouvoir aux besoins de notre propre église pour faire connaître l'Évangile dans la région, mais on va aussi donner des dons missionnaires au-delà. On va les envoyer à Paul. Et c'est nous qui choisissons de le faire. Ça, c'est le modèle biblique qu'on voit ici dans Philippiens 4. C'était volontaire en tant qu'église locale indépendante. Les membres de l'église de Philippe, ils avaient décidé ensemble, on va envoyer des dons et on va les envoyer à Paul pour qu'il continue à faire connaître l'Évangile encore plus loin. On voit aussi qu'ils donnaient spécifiquement pour l'Évangile, versets 15 et 16. C'était pour que Paul puisse continuer à partager l'Évangile. On voit que ce n'était pas simplement des dons sociaux Oui, on est responsable de donner aux pauvres selon nos capacités, mais le besoin principal, c'est que les gens entendent l'Évangile. Et on voit ici que c'était des dons missionnaires pour l'Évangile. Et ça, c'est ce que Paul ici, il était prêt à faire. Dans 2 Corinthiens 12, 15, Paul dit lui-même, « Pour moi, je me dépenserai très volontiers. Je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Donc on voit que Paul lui-même était prêt à se dépenser pour la cause de l'Évangile, pour que les gens puissent entendre l'Évangile et être sauvés, et ensuite grandir et le faire connaître à d'autres. Et Paul, il voit ça dans le cœur des Philippiens, puis il dit, « Les Philippiens, amen, vous avez ce fardeau-là, de vouloir donner pour la cause de l'Évangile. Vous avez à cœur les âmes des gens et vous êtes prêt à vous dépenser vous-même, de donner vos sous et de donner sacrificiellement pour que l'Évangile aille au loin. Cinquièmement, on voit que c'est un investissement éternel. Ils ont donné des choses qui avaient une portée éternelle, verset 17. Il dit, c'est pas que je recherche vos dons, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, ce fruit éternel. Les Philippiens ont investi dans des choses qui avaient une portée éternelle. Il y a beaucoup de causes sociales pour lesquelles on peut donner. Les gens y dépensent beaucoup pour des choses qui ne durent pas. Que ce soit des passe-temps, que ce soit des gadgets, des jeux, que ce soit toutes sortes de choses qui ne durent pas. Les Philippiens, ils ont investi dans de quoi qui avait une portée éternelle. Et Dieu veut qu'on fasse nos choix et qu'on porte nos priorités sur ce qui est dur. Et même chose, qu'on dépense dans la vie, c'est certain, on a besoin de manger, on a besoin de gagner notre pain, on va dépenser pour les besoins, d'avoir une place où rester, mais quand la priorité c'est sur les choses éternelles, on ne va pas dépenser plus qu'il faut sur les besoins de la vie, parce que ça c'est juste maintenir ce qu'il faut. La cause éternelle est ce qui compte. Et les Philippiens avaient cette priorité-là. Et Paul était content que les Philippiens avaient cette priorité pour le fruit éternel pour lequel ils investissaient. Le sixième, sacrifice qui était agréable à Dieu, verset 18. Il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Savez-vous, quand les Philippiens qui avaient entendu l'Évangile et qui avaient accepté personnellement l'Évangile, qui avaient accepté Jésus-Christ, et ensuite donc se sont fait baptiser dans l'eau pour témoigner de leur foi, et qui ont formé donc cette église locale, et qui ont dit, « Hey, nous autres, on va porter la parole de vie, mais on veut que l'Évangile aille au-delà de ce que nous, on peut faire personnellement, on va donner pour que l'Évangile aille au loin. » Ce sacrifice de dire, au lieu de se faire un meilleur chez soi et de vraiment, tu sais, de se faire confortable dans ce monde, ils ne sont pas morts de faim, ils ont payé pour leur nourriture, mais ils n'ont pas donné excessivement à leurs besoins qui ne durent pas. Ils ont donné sacrificiellement pour que l'Évangile aille plus loin. Ce sacrifice personnel des Philippiens, Dieu le voyait et Dieu dit, « Ah, c'est bon. C'est une bonne odeur. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu comme ça, lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait comme sacrifice? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Dieu est un Dieu de sacrifice. Il aurait dit, je suis le premier et le dernier. Il était vraiment le dernier. Et il mérite d'être le premier. Parce que c'est lui qui a donné le plus. Dieu est un Dieu de sacrifice. Dans Jean chapitre 11, 10, verset 17, Jésus dit ceci, « Le Père m'aime. » Savez-vous ce qui vient après? « Parce que je donne ma vie. » Dieu le Père, il aimait le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils a donné sa vie. Dieu aime ça. Dieu a aimé voir que son Fils est un Fils sacrificiel. Ensuite, il dit, afin de la reprendre. Et dans Jean 17, on voit que Jésus savait qu'il devait donner sa vie, mais ensuite il allait ressusciter. Il allait revenir à la vie. Et c'était le commandement de Dieu. Maintenant, quand Dieu voit notre sacrifice, quand nous, on sacrifie nos vies pour donner, pour l'évangélisation du monde, est-ce que Dieu aime qu'on soit sacrificiel, puis que c'est nous qui allons perdre en bout de ligne tout ce qu'on a investi? Non. Dieu aime qu'on donne pour investir, sachant qu'on va perdre l'utilisation de l'argent maintenant, parce qu'on l'a donné. Mais c'est le même plan. Dieu, il va bénir, non seulement pour qu'on ait assez pour vivre ici-bas, mais c'est surtout bénir au sens qu'on va pas perdre à long terme les richesses, on va les retrouver. Au ciel, on aura un retour d'investissement incroyable. Et c'est la même chose. Dieu aime le fait qu'on est prêt à sacrifier par la foi qu'on va retrouver plus tard au temps de Dieu. Quand Dieu dit, quand ça voudra Dieu nous le retourner. Mais c'est la même chose. Pour nous, Dieu aime notre sacrifice par la foi que ce n'est pas un sacrifice en vain, un sacrifice éternel au sens qu'on ne va jamais plus retrouver nos affaires. On est prêt à le sacrifier en vue de le retrouver plus tard plus grand. C'est le sens d'investir. Et Dieu aime ça qu'on offre comme un sacrifice en vue de l'investissement pour les choses qui comptent éternellement. Et le fruit qu'on va en retirer. Et donc c'est le même principe. Quand Dieu dit, le Père, Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de Dieu. C'était l'ordre de Dieu. Oui, tu vas donner ta vie, mais ensuite tu vas la reprendre. Et tu vas la reprendre encore plus grand parce que tu vas avoir beaucoup de fruits avec cela. Beaucoup d'humains qui vont être sauvés au ciel par ton sacrifice. Alors ça, c'est le genre de Dieu que Dieu est. Dieu est un Dieu de sacrifice qui sait aussi que par son sacrifice, il va avoir un retour incroyable. Il est le premier, il est le dernier. Dieu connaît ce principe-là. Alors, quand nous qui avons cru en Jésus-Christ, on voit par la foi le bienfait de sacrifier, le prix du sacrifice. C'est certain, quand on donne pour les missions, c'est de l'argent qu'on n'aura plus maintenant. On ne donne pas tout au sens qu'on va mourir de faim après. Mais on va donner sacrificiellement, on va garder ce qui est nécessaire, mais ensuite on va donner pour maximiser que l'évangile soit prêché. Et cette décision de le faire par la foi, que Dieu a des bénédictions riches, pas nécessairement ici-bas, on ne va pas s'enrichir ici-bas, mais des bénédictions éternelles et du fruit des gens, des âmes qui vont être au ciel, parce que le sacrifice d'ici-bas. Dieu veut qu'on ait cette foi-là et ce sacrifice-là, cet amour-là, cette expression de nos sentiments, c'est l'amour d'une façon tangible en donnant. Et le dernier point, donc, béni de Dieu, verset 19. Et il le dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, sur la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il n'y a personne qui est sacrifié pour l'émission qui ensuite meurt de faim. Dieu ne nous promet pas que si on donne, on va avoir la belle vie. Non. Beaucoup d'églises prêchent ça. Un évangile de prospérité. Si on donne à Dieu, là, on va devenir riche. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais les bénédictions, Dieu a pourvu à leurs besoins. Les Philippiens ne sont pas morts de faim en sacrifiant pour l'émission. Dieu a pourvu à leurs besoins, pas à leur convoitise, mais à leurs besoins. Ça veut dire quoi? Ils n'ont peut-être pas mangé tout ce qu'ils ont préféré, mais ils avaient quoi manger. Oh, on ne mange pas toujours ce qu'on aime, mais on en mange ce qui est bon pour nous, puisque Dieu pourvoit. C'est peut-être pas selon nos préférences, c'est correct. Dieu ne nous promet pas qu'il va nous donner toutes nos convoitises, mais il promet de nous pourvoir ce qu'il faut. Et donc on lui fait confiance et on sait que Dieu bénit. Et la bénédiction, Dieu le promet. Proverbe 11, 24, il dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Les proverbes parlent par rapport à l'éternité, pas juste ici-bas, là, et parfois principalement d'ici-bas. Luc 6, 38, il dit, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors Dieu aime ça. Quand nous, on donne sacrificiellement pour la cause de l'Évangile, Dieu va pouvoir, à ce qu'on puisse continuer non seulement à donner, mais selon nos besoins. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Dieu est un Dieu qui bénit et qui pourvoit. Parfois, les gens ils disent, « Ah, mais je donnerai bien, mais je n'ai jamais assez pour donner. » Oui, mais on y va à l'envers. Là, on ne donne pas par la foi, on ne donne pas sacrificiellement, on donne après qu'on ait servi tout ce qu'on a besoin là. Et à la fin du mois, mais Dieu il permet non seulement qu'on peut avoir plus de dépenses, Dieu permet peut-être qu'on ait plus de problèmes qui coûtent des choses pour réparer. Dieu peut permettre que quelqu'un pour pourvoir à ses besoins, il peut pourvoir plus de surplus quand les besoins sont grands, et il peut pourvoir aussi moins de problèmes, moins besoin. Dieu est capable. Mais le point est ceci. Dieu ne veut pas qu'on marche par la vue. Il dira, je vais attendre que Dieu pourvoie, ensuite je vais donner sacrificiellement. Dieu veut qu'on donne par la foi. Je vais donner par la foi. Je vais donner sacrificiellement. Et je sais que Dieu pourvoira mes besoins. C'est ce qu'il promet. Donc la bénédiction de Dieu, c'est pour ceux qui marchent par la foi avec un cœur pour aimer, un cœur pour donner, un cœur qui a à cœur l'éternité, un cœur qui a à cœur les âmes, parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse et souffre éternellement. Dieu veut sauver. Dieu veut qu'ils en entendent parler. Ça prend quelqu'un pour y aller. Dieu veut qu'on ait le cœur de vouloir y aller soi-même. Comme Ésaïe a dit dans Ésaïe 6, Seigneur, quand tu as dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ésaïe a dit, me voici. Il n'a pas dit, me voici, j'irai. Mais il a dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe avait le désir d'être envoyé. Et Dieu l'a envoyé. Et Dieu veut qu'on ait tous le désir d'aller. Si Dieu veut qu'on y aille, nos cœurs devraient être à y aller. On devrait se porter volontaire. Mais au-delà, si Dieu ne nous appelle pas personnellement à aller du bout du monde pour être missionnaire, parce qu'il n'appelle pas tout le monde, si Dieu ne nous appelle pas personnellement, quand on a le cœur à la bonne place, qu'on a un cœur l'âme perdue, non seulement à côté de chez nous, mais dans l'autre continent, de l'autre côté du monde, quand on a le cœur à la bonne place, eh bien, si nous, Dieu ne nous appelle pas personnellement d'y aller, on va vouloir donner pour permettre à quelqu'un que Dieu envoie pour y aller. En tant qu'église locale, on va vouloir participer donc à donner pour les missions pour que quelqu'un que Dieu appelle puisse y aller. Maintenant, ça, c'est du côté du donneur. Être charitable, que ça soit prioritaire, que ça soit volontaire, que ça soit pour l'Évangile, que c'est un investissement éternel, c'est un sacrifice agréable à Dieu, c'est un sacrifice qui est béni de Dieu. Ça, c'est du côté du donneur. Maintenant, parlons du côté de Paul. Paul était celui qui recevait. Est-ce que Paul disait cela parce que lui, il voulait s'enrichir? Il y a beaucoup d'églises autour. L'amour de l'argent. Et ils disent, donnez, 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 donnez la boîte d'offrande. Et c'est eux qui le récoltent. Et ils disent, donnez pour que Dieu puisse vous bénir ici-bas. Vous allez devenir riche si vous donnez. Regardez, moi je suis fidèle et je suis devenu riche. Et ça, c'est toutes des foutaises. C'est toutes... Et ce n'est pas dans l'esprit du tout que Paul parle comme ça. Alors Paul, il dit très bien, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Paul est reconnaissant. Paul ne le considérait pas comme « c'est normal que vous me donniez. Hein? » C'est normal que vous me donniez. Quand on trouve ça normal, on n'a pas besoin de dire merci. Parfois, je donne à des pauvres et ils demandent et souvent, ils ne disent même pas merci. Je trouve ça normal. Parce que, mais c'est certain que Dieu a à cœur leur âme, puis je cherche à leur parler de l'amour de Jésus. Et non seulement peut les transformer, comme il l'a fait pour moi, parce que moi je ne suis pas meilleur qu'eux. On a tous un cœur perdu, naturellement. Mais le point est ceci, Paul n'était pas comme, c'est normal qu'ils m'ont donné. Non, je suis reconnaissant. Il était reconnaissant. Il avait une gratitude simple. Du fait que les Philippiens aient choisi de lui envoyer de l'aide financière. Donc j'ai éprouvé une grande joie. Mais deuxièmement aussi, on voit qu'il souligne le contentement. Il dit, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc Paul dit, au niveau personnel, c'est pas que « Oh là là, je vais être content si vous me donnez quelque chose, ensuite après ça je serai malheureux. » Non, il dit « Je vais être content de toute manière. » Il y a des saisons où Dieu m'a donné beaucoup, puis il y a des saisons où j'ai vécu que Dieu n'a pas donné grand-chose. Mais après tout, je n'ai pas perdu aucune joie à travers l'un ou l'autre, parce que ma joie, c'est que Jésus-Christ est mon sauveur. Je sais où est-ce que je m'en vais. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mes péchés sont tous pardonnés. Quelle grâce il m'a fait. Je vais être avec lui pour l'éternité. Ah, ça c'est ce qui m'est le plus précieux. Alors que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette, Même dans la disette, Dieu n'a pas laissé mourir de faim. Dieu promet de pourvoir à ses besoins. Mais Paul savait ce que c'était de ne pas manger pas nécessairement ce qu'il préférait. Manger tout ce qu'il y avait, ben, c'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose qui quand même lui permettait de vivre. Il était reconnaissant. Pourquoi ? Le contentement que Paul avait était dans Dieu lui-même. Parfois, on apprécie quelqu'un parce qu'il donne. C'est pas lui qu'on apprécie, c'est simplement ses dons. Et Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça vis-à-vis de Dieu. Si on apprécie Dieu juste parce qu'il nous donne des bonnes choses, on est idolâtre. On adore la chose. Mais si on apprécie la chose parce que ça vient d'un Dieu qui est bon, ah, on adore le donateur. On adore celui de qui ça vient. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on trouve notre contentement dans le fait qu'on a une relation personnelle avec Dieu lui-même. Comment est-ce que ça va se manifester que c'est ça? Ben Dieu, parfois, il permet qu'on ait l'abondance, et parfois, qu'on ait la disette, pour que ça manifeste, ça vienne à la surface. Et ça montre que notre amour, c'est pour Dieu lui-même, pas juste pour le cadeau. Si, donc, notre amour pour Dieu dépend de ce qu'il nous donne, c'est qu'on n'aime pas Dieu directement. Et Dieu permet que ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, que ça va être manifesté. Dieu va permettre qu'on passe par des temps de disette. On n'a pas grand-chose. Ce n'est pas nécessairement bon pour le goût, mais ça va nourrir. Et si on est reconnaissant toujours, c'est que là, notre reconnaissance ne dépend pas des dons. Notre reconnaissance, c'est directement dans le donateur. Et donc ça, c'est ce que Paul disait. Il dit, je vous remercie pour les dons, mais comprenez-moi, ce n'est pas que c'est autour des dons que je me focalise. Parce que, qu'il y ait des dons ou pas, j'ai une relation avec le Dieu vivant et je l'aime. Et donc, je peux vivre dans l'abondance, je peux vivre dans la disette. Comme dit Hébreux 13, 15, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans notre contentement, c'est dans la personne même de Dieu, on sait que même à travers la disette, Dieu promet d'être avec nous et de nous soutenir, de nous donner la grâce, de passer par des périodes de disette. Donc Paul, il dit, sachez, tout ce que je parle au niveau de l'argent, au niveau personnel, c'est pas parce que j'aime l'argent du tout. C'est parce que je suis reconnaissant pour, mais aussi, je connais ce qu'est le contentement. Mais on voit aussi, troisièmement et dernièrement, ici, du côté du receveur, l'aspect de pas d'égoïsme. Le désir altruiste. Il dit, après tout, je suis content, pas parce que j'ai reçu des dons, mais plus parce que vous avez donné, plus parce que vous avez investi, plus parce que vous avez démontré votre amour par les dons, plus parce que vous avez montré la priorité, plus parce que vous avez choisi volontairement en tant qu'Église, plus parce que vous avez donné en vue de l'éternité, plus parce que c'était un sacrifice de bonne odeur. Il dit, c'est par rapport à vous que je parle. Parce que le fait de donner, c'est pour... Ça vous aide à manifester votre amour, etc. Donc Paul dit, c'est pas pour moi-même, c'est pas centré sur moi-même que je dis que je me réjouis que vous avez... que j'ai reçu de l'argent. C'est plus par rapport à ce que ça a fait pour vous. Et donc, on voit le côté altruiste. Et ça, c'est vraiment le but. Dieu, il nous sauve. Pas pour qu'on reste centré sur soi-même. Mais il nous sauve pour qu'on commence à regarder à d'autres et qu'on est content pour eux et qu'on veut les voir grandir, qu'on veut les voir progresser, qu'on veut les voir que Dieu les bénit pour être un outil de faire connaître son amour à d'autres. Dieu ne nous sauve pas pour qu'on reste centré sur soi-même. Et on le voit dans ce passage, Paul n'était pas centré sur soi-même. Paul, son bonheur, c'était vraiment par rapport à eux. Eux ont connu la joie de donner, après tout. Avez-vous déjà entendu que il y a... Ah, je l'ai perdu ici. Il y a plus de bonheur à quoi? Avez-vous déjà entendu cela? Il y a plus de bonheur à... Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est pour ça que vraiment Paul était content par rapport à eux. parce qu'il savait leur bonheur d'avoir donné. Est-ce que Paul était du côté de ceux qui recevaient? Dans cette occasion-là, oui. Mais Paul, vis-à-vis des Corinthiens, par exemple, il dit, je suis prêt à me dépenser. Paul lui-même, à son tour, donnait. Et c'est là que c'est merveilleux. Par exemple, la dîme. Dans l'Ancien Testament, tous les tribus devaient donner la dîme. Et la dîme, ça devait aller à la tribu de Lévi, pour qu'il fasse le service à temps plein du temple et de Dieu. Mais les Lévites eux-mêmes devaient donner la dîme. Ils devaient prendre 10% de ce qu'eux recevaient pour le dédier directement à Dieu. Alors, c'est comme Paul, est-ce que lui-même, quand il recevait, lui-même ne donnait pas? Non, lui savait aussi dans son temps à lui. C'était son temps, le sang a été de donner. Et il est allé chez les Corinthiens. Et il a pas dit aux Corinthiens, vous devez me donner de... Non, Paul se dépensait pour les Corinthiens. Il le recevait, mais des églises volontairement qui voulaient qu'il aille plus loin, comme il faisait pour les Corinthiens. Donc on voit que Paul, ce n'était pas sa joie, en fin de compte, de recevoir. Sa joie était beaucoup plus de les voir donner. Parce que lui-même, Paul, avait ce cœur de donner, quand c'était le temps pour lui de donner. Alors Dieu, quand on voit ici qu'il traite de la question des sous et l'aspect tangible de donner pour la cause des missions, on voit que ce n'est pas du tout une question de l'amour, d'encourager l'amour de l'argent, de donner une fausse idée que si vous donnez à Dieu, si vous donnez pour une mission, Dieu va vous bénir richement et vous allez être riche sur cette terre. Non, beaucoup d'églises, c'est un peu cette approche qu'ils enseignent et ce n'est pas ça qu'on voit dans Philippiens. Dans Philippiens, on voit que c'est mis dans le bon contexte, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et même dans le fait de recevoir, Paul dit, c'est pas parce que j'ai besoin de ça pour être content, non. Mais par rapport à vous, je suis content que vous connaissiez la joie de donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon la parole de Jésus qui nous est relatée dans les Actes, dans Actes chapitre 20. Donc, les missions, est-ce que c'est au cœur de Dieu? Oui, la grande commission, c'est ce qu'on est confié à faire. C'est pourquoi on est ici en tant qu'église. C'est pour ça que ma femme et moi, on est là, parce qu'il y a les églises qui nous ont eu à cœur la Guyane pour nous envoyer ici pour faire connaître l'Évangile. La grande commission de faire connaître l'Évangile pour qu'on puisse devenir disciple, être baptisé pour qu'on puisse témoigner d'avoir accepté Jésus. Et ensuite, d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Pour qu'une église locale puisse être établie de personnes qui se sont converties, qui se sont fait baptiser et qui maintenant cherchent à servir et le faire connaître encore plus loin, parce que Dieu, son désir, c'est que toutes les nations en entendent parler. Alors, où est-ce que vous en êtes dans cette grande commission-là? Vous êtes quelque part dans cette grande commission-là. Peut-être vous êtes encore ceux que Dieu cherche à gagner. Encore ceux de ceux que Dieu veut faire devenir un disciple. Si c'est ça où ce que vous avez entendu, bah, acceptez-le aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr ce que ça veut dire, cherchez. Cherchez qu'est-ce que ça veut dire d'être perdu. Ça veut dire quoi la conversion? Ça veut dire quoi la foi qui sauve? C'est quoi ça? Il y a tellement de foi générique, foi en Dieu, sans connaître vraiment le salut. Ah, si vous êtes pas sûr de vraiment croire en Jésus au sens que Dieu en parle, la foi qui sauve, ah, Dieu cherche encore à vous sauver. Si vous êtes plus loin, peut-être vous avez accepté Jésus-Christ, vous n'avez pas encore été baptisé publiquement. Ah, ben Dieu veut que vous fassiez baptiser pour témoigner de la foi que vous avez mis en vous Jésus. Si on a été baptisé, est-ce qu'on est en train d'apprendre tout ce que Jésus-Christ a prescrit, qui inclut de bien faire partie d'une église locale et donner pour que l'évangile aille encore plus loin? Où est-ce qu'on est rendu dans toute cette grande commission que Jésus-Christ nous a donnée? Est-ce que c'est l'Évangile que vous avez besoin de croire? Est-ce que vous l'avez cru? Et ensuite, est-ce que vous vivez en conséquence, même tangiblement, à ce que ça change, ce qu'on fait avec même l'argent que Dieu nous permet d'avoir? Est-ce que l'Évangile est au cœur de ce qu'on aime et de ce qu'on fait? On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce passage de Philippiens chapitre 4, versets 10 à 20. Où on voit le cœur de Paul, qu'il apprécie les dons, mais ce n'est pas pour les dons en soi-même qu'il est content, il est content pour le bonheur de donner qu'avaient expérimenté les Philippiens, et leur vision de vouloir donner sacrificiellement pour la cause de l'Évangile, que ça aille encore plus loin. Et donc Seigneur Dieu, merci pour ce qu'on a pu apprendre. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacun selon le besoin. Tu connais ceux que ceux qui t'appartiennent. Tu connais aussi ceux que tu convies à venir à toi. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse peser lourd, Seigneur, sur quiconque ne te connaît pas encore vraiment comme Seigneur et Sauveur, que ton Esprit Saint puisse peser lourd sur leur cœur, de montrer leurs péchés et d'exposer, Seigneur Dieu, leur cœur perdu. Seigneur, afin de pouvoir les convier à Jésus, les convier à la repentance et à la foi en Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie donc que tu puisses toucher le cœur de chacun. Seigneur, qu'on puisse grandir en tant qu'Église. Seigneur, qu'il y ait plus de personnes qui se convertissent, qui se font baptiser, qui se joignent, et que les gens qui en font partie, qu'on puisse s'impliquer plus, et puis qu'on puisse commencer à donner pour les missions, pour que l'Évangile puisse aller plus loin, pour qu'un jour même de cette Église, on puisse envoyer des missionnaires pour aller dans les places qui ont encore besoin de faire connaître l'Évangile. Seigneur, il y en a tellement autour de nous, de ces places. On te prie donc que tu puisses faire avancer ton œuvre. Seigneur, on te supplie au nom de Jésus.